Audiolib présente Carnet noir de Stephen King, lu par Antoine Thomé. Une pensée pour John D. MacDonald. C'est en nous enfonçant dans les abysses que nous recouvrons les trésors de la vie. Joseph Campbell. Cette connerie, c'est des conneries. Jimmy Gold. Première partie. Un trésor enterré. 1978.
Hé, le génie, on se réveille!
Rothstein ne voulait pas se réveiller. Son rêve était trop bien. Il y avait sa première épouse, des mois avant qu'elle devienne sa première épouse. 17 ans. Parfaite de la tête aux pieds. Nue. Corps scintillant. Nus tous les deux. Lui, 19 ans, du cambouis sous les ongles. Mais elle s'en balançait, du moins à l'époque, parce qu'il avait la tête pleine de rêves, et que c'était ça qui comptait pour elle. Elle croyait à ses rêves bien plus que lui, et elle avait raison d'y croire. Dans ce rêve, elle riait en essayant d'attraper la partie de lui la plus facile à attraper. Il chercha à s'enfoncer plus profondément dans son rêve, mais une main se mit à lui secouer l'épaule et le rêve éclata comme une bulle de savon. Il n'avait plus 19 ans et n'habitait plus un deux pièces dans le New Jersey. Il fêterait ses 80 ans dans 6 mois et vivait dans une ferme du New Hampshire où son testament précisait qu'il devait être enterré. Il y avait 3 hommes dans sa chambre. Ils portaient des passe-montagnes, un rouge, un bleu, un jaune canari. Voyant ça, il tenta de se convaincre que c'était juste un autre rêve. Le chouette qu'il était en train de faire avait glissé vers le cauchemar, comme il arrive parfois. Mais c'est là que la main lui lâcha l'épaule, l'attrapa par le bras et le jeta à bas du lit. Sa tête heurta le sol et il poussa un cri.
« Arrête !» dit l'homme à la cagoule jaune. « Tu veux le sonner ou quoi ? » ?»«
Visez-moi ça !»
Celui à la cagoule rouge pointait le doigt.
« Le vieux à la trique ?» devait être en train de faire un putain de rêve.
Celui qui l'avait secoué, cagoule bleue, dit
« Il a envie de pisser, c'est tout. À cet âge-là, c'est le seul truc qui peut les faire bander. Mon grand-père ?»«
Ça va, »
dit cagoule jaune.
« On s'en tape de ton grand-père. »
Bien que sonné et toujours empêtré dans un rideau de sommeil s'effilochant peu à peu, Rothstein savait qu'il était en mauvaise posture. Un mot émergea dans son esprit. Cambrioleur. Sa vieille tête lui faisait mal. Il allait avoir un énorme bleu sur le côté droit, merci les anticoagulants. Son cœur aux parois dangereusement minces cognait contre le côté gauche de sa cage thoracique, mais il leva les yeux vers le trio qui s'était matérialisé dans sa chambre. 3 hommes dressés au-dessus de lui, mains gantées, vestes d'automne à carreaux sous les terrifiantes cagoules. Des cambrioleurs. Et il était perdu ici, à 8 kilomètres de la ville. Rothstein rassembla ses esprits de son mieux, chassant le sommeil tout en se disant qu'il y avait au moins un point positif dans cette situation. Si ces types-là ne voulaient pas qu'il voie leur visage, c'est qu'ils comptaient le laisser en vie. Peut-être.
« Messieurs !» dit-il.
Monsieur Jaune rigola et leva le pouce.
« Bon début, le génie !»
Rothstein inclina la tête, comme s'il venait de recevoir un compliment. Il consulta furtivement le réveil, vit qu'il était 2h15 du matin, puis regarda de nouveau M. Jaune, qui était peut-être bien le meneur.
« J'ai un peu d'argent seulement, mais prenez-le, je vous en prie, pourvu que vous partiez sans me faire de mal. »
Le vent soufflait en rafale, projetant des feuilles d'automne contre le mur ouest de la maison. Rothstein remarqua que la chaudière s'était déclenchée pour la première fois de l'année. Est-ce qu'on sortait pas tout juste de l'été ?
D'après ce qu'on sait, t'as beaucoup plus qu'un peu.
Ça, c'était Monsieur Rouge.
La ferme !
Monsieur Jaune tendit une main à Rothstein.
Relève-toi, le génie.
Rothstein saisit la main tendue, se remit sur ses pieds en chancelant et s'assit sur le lit. Il respirait fort, affreusement conscient du tableau qu'il devait présenter. Sa conscience aiguë de lui-même avait été sa malédiction et sa bénédiction toute sa vie. Un vieillard flottant dans un pyjama bleu,
ne restant de sa chevelure que quelques pelotes de pop-corn blanc au-dessus des oreilles. Voilà ce qu'était devenu l'écrivain qui, l'année où JFK avait été élu président, avait fait la une du magazine Time. John Rothstein, le génie reclus de l'Amérique. Et le génie, on se réveille.
Reprends ton souffle, dit M. Jaune. Son ton était plein de sollicitude, mais ça n'inspirait pas confiance à Rothstein.
Puis on ira au salon, où vont les gens civilisés pour bavarder.
Prends ton temps, retrouve ta sérénité.
Rothstein respira lentement, profondément, et son cœur se calma un peu. Il essaya de penser à Peggy, avec ses petits seins en pomme, petits mais parfaits, et ses longues jambes lisses. Mais le rêve s'était envolé. Tout comme Peggy elle-même, vieille bique vivant désormais à Paris, avec le fric qu'il lui versait. Yolande, au moins sa deuxième tentative d'accès au bonheur conjugal, était morte, mettant ainsi un terme au versement de la pension. Cagoule rouge quitta la pièce, et Rothstein entendit qu'on farfouillait dans son bureau. Quelque chose tomba. On ouvrait et fermait des tiroirs.
« Ça va mieux ?» demanda M. Jaune. Et quand Rothstein acquiesça, « Alors on y va. »
Rothstein se laissa conduire dans le petit salon, escorté par M. Bleu sur sa gauche et M. Jaune sur sa droite. Dans son bureau, la fouille continuait. M. Rouge n'allait pas tarder à ouvrir le placard, écarter ses deux vestes et trois pulls, et découvrir le coffre-fort. C'était inévitable.
D'accord, du moment qu'il laisse les carnets. Pourquoi il les prendrait? Des voyous comme ça s'intéressent qu'à l'argent. Ils savent probablement rien lire de plus compliqué que le courrier des lecteurs dans Penthouse.
Sauf qu'il avait des doutes concernant l'homme à la cagoule jaune. Celui-là parlait comme quelqu'un d'instruit. Toutes les lumières étaient allumées au salon, et les rideaux n'étaient pas tirés. Des voisins insomniaques auraient pu se demander ce qui se passait dans la maison du vieil écrivain, s'il avait eu des voisins. Les plus proches étaient à 3 kilomètres de là, sur la route principale. Ils n'avaient pas d'amis, aucun visiteur. Les rares démarcheurs se faisaient rembarrer. Rothstein était juste ce vieux mec bizarre, l'écrivain à la retraite, l'ermite. Il payait ses impôts et on lui foutait la paix. Bleu et Jaune le conduisirent jusqu'au fauteuil face à la télé, qu'il regardait rarement, et lorsqu'il tarda à s'y asseoir, M. Bleu l'y poussa sans ménagement.
« Doucement !» dit Jaune sèchement.
Et Bleu se recula un peu en marmonnant. « Ok, c'était bien M. Jaune le patron. C'était M. Jaune le chef de la meute. » Il se pencha vers Rothstein, les mains sur les genoux de son pantalon de velours côtelé.
« Tu veux une petite goutte de quelque chose pour te détendre ?»«
Si c'est d'alcool que vous parlez, j'ai arrêté il y a 20 ans, ordre du médecin. » »«
Tant mieux pour toi. T'es allé aux réunions ?»«
J'étais pas alcoolique, » dit Rothstein agacé.
Absurde d'être agacé en pareille situation. Ou pas. Qui sait comment quelqu'un est censé réagir après avoir été jeté à bas de son lit en pleine nuit par des hommes en cagoule colorée. Il se demanda comment il pourrait bien écrire une telle scène et n'en eut pas la moindre idée. Il n'écrivait pas ce genre de truc.
« Les gens s'imaginent que tous les écrivains blancs mâles du XXe siècle doivent être alcooliques. »«
ça va, » dit M. Jaune.
On aurait dit qu'il essayait de calmer un enfant grognon. « Un peu d'eau ?»«
Non, merci. Ce que j'aimerais, c'est que vous partiez tous les trois. Alors je vais être honnête avec vous. »
Il se demanda si M. Jaune comprenait la règle la plus élémentaire de la communication humaine. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il va être honnête avec vous, c'est généralement qu'il ou elle s'apprête à mentir plus vite qu'un cheval au galop.
« Mon portefeuille est sur la commode de la chambre. Il y a un peu plus de 80 $ dedans, et il y a une théière en céramique sur la cheminée. »
Il la montra du doigt. M. Bleu se retourna pour regarder, mais pas M. Jaune. M. Jaune continuait d'épier Rothstein, le regard presque amusé sous sa cagoule.
« Ça marche pas, » pensa Rothstein.
Mais il persévéra. Maintenant qu'il était réveillé, la colère le disputait à la peur. Mais il savait qu'il valait mieux pour lui ne pas le montrer.
« C'est là que je garde l'argent pour la femme de ménage, 50 ou 60 $. C'est tout ce qu'il y a dans la maison. prenez-le et partez.
Enfoiré de menteur, dit Monsieur Bleu. T'as beaucoup plus que ça, mon vieux. On est au courant, crois-moi.
Comme si c'était une pièce de théâtre, et que cette réplique était son signal, Monsieur Rouge cria depuis le bureau.
Bingo! J'ai trouvé un coffre-fort! Et un gros!
Rothstein savait que l'homme à la cagoule rouge finirait par le trouver, mais il sentit quand même son cœur chavirer. C'était stupide de garder de l'argent liquide, et il n'avait aucune raison de le faire si ce n'était son aversion pour les cartes de crédit, les chèques, les actions et autres instruments de transfert, toutes les chaînes séduisantes qui attachent les gens à l'écrasante et inéluctablement destructrice machine à créances et dépenses de l'Amérique. Mais cet argent liquide pouvait être son salut. L'argent peut se remplacer. Les carnets, près de 150, non.
« Le code, maintenant !» dit Monsieur Bleu.
Il tapa dans ses mains gantées.
« Crash !»
Rothstein était presque assez furieux pour refuser. D'après Yolande, la colère avait été son mécanisme de défense toute sa vie.
« Déjà sans doute dans ton foutu berceau !» qu'elle avait dit.
Mais il était également fatigué et terrifié. S'il regimbait, il le frapperait pour le lui faire avouer. Ça pourrait même lui déclencher une autre crise cardiaque. Et une de plus finirait à peu près certainement de l'achever.
Si je vous donne la combinaison du coffre, vous voudrez bien prendre l'argent et partir ?
Monsieur Rothstein, répondit Monsieur Jaune avec une bienveillance qui semblait sincère, et par conséquent grotesque,
vous n'êtes pas en position de marchander. Freddy, va chercher les sacs.
Rothstein sentit un courant d'air froid quand Monsieur Bleu, alias Freddy, sorti par la porte de la cuisine. Monsieur Jaune, pendant ce temps, s'était remis à sourire. Rothstein détestait déjà ce sourire, ses lèvres rouges.